Vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
18h40, on va défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec Cyprien Sini, oui. Isabelle Choquet qui a le sens du rythme décidément et Laurent Tessier. L'info autrement jusqu'à 19h, le menu Cyprien.
Ce soir, on défait les échecs. Et oui, une histoire surréaliste. Énorme soupçon de tricherie dans cet univers feutré. La tour vacille, le roi devient fou, l'échiquier tangue, plongé dans un univers impitoyable. Au menu également, la générale de gendarmerie qui a accepté l'un des pires jobs de France, les banques libanaises contraintes de tirer le rideau pour éviter de se faire braquer et la traversée des États-Unis en trottinette. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
L'élite mondiale du jeu d'échecs est secouée depuis plusieurs semaines par des soupçons et des rumeurs de tricherie.
Oui, vous avez bien entendu, ça tricherait même dans le milieu a priori très policé et bien éduqué des échecs. Autant dans les autres sports, foot, cyclisme, bon, on est habitué aux soupçons de dopage et de corruption, mais alors dans les échecs, on l'a vraiment pas vu arriver, surtout que cette histoire de triche est assez rocambolesque, Isabelle. Hein.
Oui, c'était lors du prestigieux tournoi de Saint-Louis aux États-Unis il y a 15 jours. Le numéro 1 mondial, le Norvégien Magnus Carlsen, est battu par un invité surprise, l'Américain Hans Niemann, 49e du classement. Carlsen est furieux, il dénonce une tricherie de son adversaire.
Oui, tenez-vous bien, ce serait grâce à une puce placée dans son anus qu'il aurait gagné, oui. Alors forcément, avec l'équipe dont défait le monde, bah on a voulu comprendre et en savoir plus.
Que s'est-il passé? Comment fait-on pour tricher aux échecs? Et pourquoi ce sport se retrouve à son tour rattrapé par des fraudes?
Pour tout nous expliquer, on a contacté Bachar Kouatli. C'est le patron de la revue de référence Europe Échecs, grand maître de la discipline. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour tricher aux échecs, on a besoin de l'intelligence artificielle.
On faisait tous nos calculs en classe. À l'époque, il n'y avait pas de machine. Les machines à calculer sont arrivées. Et puis, soudain, on n'a plus fait de calcul mental. Aux échecs, c'est pareil. Avant, il fallait réfléchir et il n'y avait rien qui pouvait évaluer une situation. Et depuis, on parle du numérique, on parle des algorithmes. Eh bien, ça fait irruption dans le monde des échecs. Vous vous rappelez que Kasparov avait perdu contre la machine en 97, il y a 25 ans déjà. Donc, aujourd'hui, un calculateur hyper puissant va beaucoup plus vite qu'un homme. Même le champion du monde ne peut pas aller aussi vite qu'un calculateur hyper puissant. Une machine que vous pouvez acheter n'importe où est plus forte qu'un champion du monde. Si un joueur lambda va céder d'un logiciel, il pourrait battre le champion du monde. Et c'est la question qui est posée aujourd'hui.
Alors, moi, je veux bien le coup de la triche avec l'ordinateur. Mais quand on joue aux échecs, on est face à face autour d'une table. Donc, s'il y a une aide extérieure, on le voit forcément.
Eh ben non. Pas forcément, justement. Voilà comment ça se passe. Alors, je vous préviens, c'est fascinant.
Quand vous faites une partie d'échecs, les parties, elles sont reproduites aujourd'hui en temps réel sur Internet. Donc, il suffit qu'il y ait un logiciel qui analyse ça aussi en temps réel de l'autre côté. Bien sûr que ce logiciel est beaucoup plus puissant que les humains. Si le joueur qui joue arrive à recevoir des informations de ce logiciel, eh ben, il va y avoir un déséquilibre sur la partie.
Comment on fait pour recevoir des messages extérieurs? Ça se voit, quoi. Enfin, je veux dire, on ne peut pas tricher.
Soit vous avez un téléphone portable.
Ah oui, mais on vous voit.
Alors, bien sûr qu'on vous voit. Donc, aujourd'hui, vous savez très bien qu'aujourd'hui, avec Neuralink, avec quelqu'un qui a une puce, qui est ou greffée, ou des signaux qui lui sont envoyés, peut très vite savoir de l'extérieur ce qui se passe.
Et donc, ce serait, rien n'est prouvé pour l'instant, hein, ce serait grâce à une puce planquée dans les fesses qui lui envoie des impulsions quand Niemann a réussi à battre le champion du monde. D'ailleurs, après 3 parties, ils ont arrêté la retransmission en temps réel sur le net. Et là, comme par hasard, Niemann a beaucoup moins bien joué.
Bon, c'est quand même très très sophistiqué comme triche. Il y a tant d'enjeux que ça dans le milieu des échecs,
hein. Et ben alors, c'est pas Dallas, mais quand même.
Aux échecs, les sommes sont moins importantes qu'au foot, mais il y a aussi des enjeux d'argent. Par exemple, le tournoi de Saint-Louis, c'était de l'ordre de 300 000 euros. Un joueur professionnel comme Carlsen gagne très très bien sa vie, c'est le numéro un mondial. Ce sont des gens qui gagnent en millions de dollars leur vie chaque année. Dès qu'il y a de l'argent, de la notoriété, un titre, il peut y avoir bien sûr de la triche.
Et désormais, une enquête est en cours. La Fédération internationale cherche surtout à prendre des mesures très très fortes pour rendre les parties d'échecs insoupçonnables.
Vous avez changé l'image du jeu d'échecs pour l'éternité, cher Cyprien.
RTL. sous les radars.
L'info passée sous les radars.
Vous vous souvenez certainement de ces Libanais qui, face à la crise, étaient obligés de braquer leur propre banque pour retirer leurs propres économies. Ça a pris une tournure assez hallucinante, Isabelle.
Oui, la réponse des banques a été radicale. Elles ont fermé pendant une semaine. L'association des banques libanaises estimait que le risque était devenu trop grand. Alors, c'est vrai que depuis le mois d'août, le phénomène a pris de l'ampleur. Il y a eu cette jeune femme qui voulait soigner sa sœur atteinte du cancer et depuis sept autres braquages du même genre. Alors, en fait, braquage, c'est pas le bon terme. Ces gens, ils viennent réclamer leur argent parce que depuis 2019 au Liban, c'est tellement la crise que les retraits sont interdits ou alors vraiment très très limités.
Et alors, à l'heure où on parle, là, c'est toujours fermé ?
Alors, certaines banques ont rouvert aujourd'hui, mais pas toutes. Et puis, au compte-gouttes, hein, avec une priorité pour les entreprises, les écoles et les hôpitaux. Résultat, des files d'attente interminables. Les distributeurs, eux, sont accessibles à tout le monde, mais souvent, ils sont vides. La sécurité, évidemment, a été renforcée autour des banques. Mais notez que dans les files d'attente, il y a aussi des policiers et des militaires. Et pour vous dire comme la situation est tendue, à Saïda, dans le sud, un membre des forces de sécurité a lui aussi tenté d'entrer de force dans une banque. Il voulait tout simplement retirer son salaire.
Triste et chaotique situation. Au Liban. Petite pause et puis on défait le monde se poursuit dans RTL Soir et on va souhaiter beaucoup beaucoup de courage à notre winner du jour dans un instant parce qu'elle n'aura pas un job facile, vous allez tout comprendre juste après ça.
Julien Cellier, Cyprien Sini, on défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Sini, on défait le monde dans RTL Soir.
Bonne fin de journée à l'écoute de RTL, on défait toujours le monde, effectivement, dans RTL Soir. Et c'est l'heure. Isabelle va nous présenter maintenant sa grande gagnante du jour.
Oui, une winneuse et surtout, il lui faudra un vrai moral de gagnante, tant la tâche qui l'attend s'annonce compliquée. Bah, voire impossible, Isabelle.
Oui, elle s'appelle Florence Guillaume, vous la connaissez ?
Non.
Ah bah non, oui, c'est pas ça, tout le monde connaît Nabila.
Non mais allô quoi.
Mais vous ne connaissez pas Florence Guillaume, qui est pourtant la plus jeune générale de tous les temps dans la gendarmerie, nommée en mai dernier à 47 ans seulement. Et puis, depuis lundi dernier, elle est aussi la nouvelle déléguée à la sécurité routière. Ah ouais, bravo madame, mais vraiment, bon courage.
C'est un métier à la con.
Je n'irai pas jusque là, mais franchement, ça ne va pas être une partie de plaisir parce que ces derniers temps, niveau sécurité routière en France, on n'est pas des foudres de guerre.
Ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Et le dernier qui a essayé, c'est Édouard Philippe, en guerre contre les accidents sur les routes secondaires.
C'est pourquoi nous venons de décider d'y abaisser la vitesse maximale autorisée à 80 km/h.
Voilà, il savait hein, que ce serait impopulaire, il l'a beaucoup dit. Eh bien, en fait, ça a été très impopulaire.
Toulouse, Paris, Montpellier, Toulon, partout en France, une contestation grandissante.
C'est complètement ridicule.
Ça servira à rien du tout, à part mettre des sous dans la caisse de l'État.
Les automobilistes, les motards, même les politiques, tout le monde râle. Et finalement,
localement, les préfets et les présidents de conseils départementaux pourraient s'affranchir de cette limite de 80 km/h et fixer une limite supérieure.
Bah voilà, dans la foulée, le ministre de l'Agriculture, lui, s'attaque à l'alcool au volant. La tolérance zéro, pour ou contre ?
Pour. Je pense que lorsqu'on conduit, on ne doit pas boire.
Sauf que
les viticulteurs français ne suivent pas leur ministre. Ah, la tolérance zéro alcool au volant, ils sont contre.
Bah ça alors ?
J'ai l'impression que la France veut toujours en rajouter la prohibition. Alors pourquoi, oui, interdire de fumer? Allons en dire qu'il ne faut plus fumer du tout.
Ben oui, mais quelle idée, interdire de fumer, puis quoi encore. Bref, on a touché à rien, et c'est comme ça à peu près pour tout. Tenez, prenez le contrôle technique des deux roues,
oui,
important et obligatoire. Hein. C'est une directive européenne à appliquer normalement là, au 1er octobre.
Ah bah c'est dans
c'est
pas
là,
jour.
C'est ce que je vous dis, là maintenant. Bon, on le savait depuis 2014, et ben l'an dernier.
Le décret est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
Ah bon, et pourquoi ?
Ce n'est pas le moment d'embêter les Français.
Ah, c'est pas le moment. Ouais, c'était l'été, il faisait moche, on était encore en plein Covid. Je ne sais pas s'il y a un bon moment pour embêter les Français, mais en tout cas, ce n'était pas là. Et on ne veut tellement pas les embêter, les Français, que Gérald Darmanin a eu aussi sa petite idée.
Ne plus enlever de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.
Bah allez, on va pas embêter les Français pour 5 km/h quand même. Hein. Des petits reculs, des petits renoncements. Pour info, tout de même, sur les 6 premiers mois de l'année, la mortalité routière a bondi de 25% par rapport à l'an dernier, même par rapport à 2019 d'ailleurs. Donc ça se confirme, hein, notre gendarmette de haut vol a vraiment, vraiment du pain sur la
voilà,
poche.
Voilà, on souhaite beaucoup, beaucoup de courage
à Florence Guillaume.
Florence Guillaume, on connaîtra son dont nom, on retient le nom ce soir.
Le match des infos
pour briller au dîner.
À table, effectivement, c'est le match, le duel, le face-à-face. Oui, Isabelle face à Laurent, la bataille chaque soir pour la meilleure info pour briller au dîner.
Isabelle a repris le large depuis le début de saison. Elle mène 17 face à Laurent qui s'accroche, mais qui donne tout et qui n'a pas l'intention de lâcher avec ce soir une info pour briller qui est très éclairante.
Oui, ce soir, je vous fais briller avec la flamme tricolore qui représente le logo du Rassemblement National en France, mais que l'on retrouve aussi pour le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Eh bien, à l'origine, cette flamme, c'est un hommage direct à Mussolini au départ. Elle était placée sur un socle représentant la tombe du Duce renaissant éternellement. Et elle a été affichée pour la première fois en 1946 par le mouvement social italien créé par d'anciens proches du dictateur fasciste après sa mort. Logo qui arrivera en 1972 en France au Front National, même si Jean-Marie Le Pen avait démenti tout rapprochement.
Je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion de ces graphismes identiques. Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez.
Voilà, c'était la graphismes. Ouais. Bon, on est libre de le croire ou non. Place à Isabelle.
Le challenge est donc relevé ce soir pour Isabelle, parce que c'était pas mal, Laurent. Avec quoi vous allez tenter de conforter votre avance, dites-nous.
Moi aussi, je brille. Avec les enseignes lumineuses qui sont censées être éteintes la nuit, mon info, c'est qu'elles ont été inventées par les pharmaciens. Parce que les apothicaires savaient faire des mélanges chimiques de toutes les couleurs. Ils ont été les premiers à poser dans leurs vitrines des bocaux remplis de liquides verts, rouges ou bleus. Derrière les bocaux, ils plaçaient un réflecteur en cuivre. Le soleil tapait sur le réflecteur et ça illuminait les bocaux. Ça faisait un reflet qu'on pouvait voir sur le trottoir et ça attirait le chaland. Le soir, évidemment, on éclairait plutôt à la lampe à huile ou la lampe à pétrole. C'était au 19e siècle. Ensuite, il y a eu des sphères de verre avec des ampoules électriques. Et puis, le néon est arrivé début 20e.
Ça brille beaucoup ce soir. Hein, ces deux infos, mais elle est forte.
Hein. Oui, elle est forte. Bien sûr qu'elle est forte.
Pourquoi pas me regarder? Je
sens la tristesse en regardant Julien. En plus, c'est moi qui ai eu l'idée. Bon, on sait alors pour Isabelle.
Isabelle, bravo. Bravo Isabelle, allez RTL Soir, ça continue dans quelques secondes. On va défaire encore et toujours le monde juste après la pause. Votre monde, plus précisément, juste avant le journal. On vous propose ce soir la traversée des USA, des US, des États-Unis, à trottinette. A tout de suite.
On défait le monde.
Julien Cellier, Cyprien Signy. Julien Cellier, Cyprien Signy ont défait le monde dans RTL Soir.
18h56, on défait effectivement toujours le monde dans RTL Soir. Dans 4 minutes, ce sera votre journal, le point complet sur l'actualité. Auparavant, comme chaque soir avant 19h, on va mettre en avant vos projets les plus fous. Assez farfelu d'ailleurs le projet ce soir.
Oui, parce que vous utilisez peut-être ces fameuses trottinettes électriques pour vous rendre au travail, faire des courses, pour les petits trajets du quotidien. Eh bien, notre invité de ce soir, Laurent, a fait beaucoup plus fort.
Oui, Emmanuel vient de réaliser un défi complètement fou, traverser les États-Unis en trottinette électrique de Los Angeles à New York pendant 5 mois. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laurent, bonsoir à toute l'équipe.
Alors, quand vous dites trottinette électrique, c'est quoi l'engin? Parce que c'est pas les trottinettes électriques qu'on peut louer à Paris ou dans les grandes villes, j'imagine.
Bien, c'est très proche. C'est une trottinette qui ressemble vraiment beaucoup. Elle est juste un petit peu plus de batterie, plus d'autonomie. Et j'ai rajouté un siège dessus pour pouvoir m'asseoir.
Ah ouais.
Et c'est tout. Je pouvais faire 100 km par jour, c'est-à-dire 60 miles.
Ah ouais, et ça fait combien la distance que vous avez parcourue?
J'ai fait 10 000 km parce que j'ai fait un gros détour par le Canada en fait.
Et pour recharger, c'est pas trop galère?
Alors c'est le challenge, hein. C'est tout le challenge du voyage. Donc la plupart du temps, je recharge le soir quand je campe dans les campings ou alors dans les motels. Quand je dors, je mets la trottinette dans ma chambre. Et je recharge aussi souvent entre midi et 2 pour pouvoir faire un peu plus de kilomètres. Et donc là, c'est dans les restos, dans les stations-service ou des trucs comme ça. Je demande à chaque fois et les gens veulent bien la plupart du temps.
Il paraît qu'elle a un petit surnom, votre trottinette?
Et oui, elle s'appelle Brigitte, ma petite Brigitte.
Et pourquoi Brigitte?
Pourquoi Brigitte?
C'est une question qu'on pose beaucoup. En fait, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est en rapport avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Mais pas du tout. En fait, c'est juste que je trouvais le prénom drôle. Voilà.
Est-ce qu'il y a eu des aventures? Est-ce que parfois vous vous êtes fait des frayeurs, des risques de panne des...
J'ai vu un ours quand même sur la route, alors que j'étais tout seul sur ma trottinette. Donc ça fait toujours un peu bizarre, mais ça s'est bien passé. Il était gentil.
Vous avez fait quoi? Vous avez tracé ou il vous a regardé? Vous êtes regardé? Il y a eu une interrogation?
Alors non, je me suis arrêté parce que en fait il était suffisamment loin pour que je me sente en sécurité. Mais là où c'était un petit peu tendu, c'est que c'était une femelle avec ses deux oursons.
Oula.
Donc là il faut faire très très attention parce que elle est hyper protectrice. Et puis je suis parti.
Bah il fallait pas tomber en panne à ce moment-là. S'il y a une image à retenir de cet immense voyage, ce serait laquelle?
Ah, je pense que la classique, hein, c'est l'arrivée au Grand Canyon. C'est vraiment un spectacle qui laisse bouche bée. Et ça a été aussi en fait l'image que j'avais en tête quand j'ai organisé le voyage. Je me suis dit, le jour où j'arrive au Grand Canyon en trottinette, ça sera déjà réussi, quoi.
Les États-Unis en trottinette électrique, Paris réussi pour Emmanuel. Et vous pouvez retrouver toutes les vidéos de cette aventure complètement folle sur son compte Instagram. Manu n'attend plus. Merci Emmanuel.
Merci à vous.
Et bravo, surtout. Ouais. Merci Emmanuel.
Merci bravo à vous de aussi. L'avoir laissé finir.
Les amis dont défait le monde, on se retrouve demain.
Absolument.
Avec 18h40 dans RTL Soir. À demain.
À demain.